Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Stéphane, vous évoquez cet après-midi le destin du premier chauffard, ou plutôt de la première chauffarde de l'histoire, Anne de Mortemar, qui fut la duchesse d'Uzès.
Et oui Mathieu, avant d'être duchesse d'Uzès, elle était en effet Anne de Mortemar. Une jeune fille pas vraiment jolie, mais riche. C'est ce qu'elle découvre à ses dépens à 19 ans lors de son premier bal en 1866. La marquise de Fontenay qui donne une fête en son honneur, et l'enjeu est de taille. Hein. Ce soir-là, Anne doit faire son entrée dans le petit monde de l'aristocratie parisienne auquel elle est prédestinée. Alors, la jeune femme se prépare depuis de longs mois pour être à la hauteur. Elle se livre à des séances d'essayage harassantes. Les couturières défilent jusqu'à trouver la robe parfaite qui lui permettra de quitter son château de province de la Marne, direction la capitale. Et le bal s'annonce bien. Les convives sont nombreux, variés et de tout premier rang. Les plus grands noms se côtoient, s'amusent, dansent, tout sauf une, Anne. Oui, qui passe la soirée assise sur une chaise, elle fait tapisserie, comme on dit. Personne n'a le moindre égard pour elle, personne ne l'invite, personne même ne lui adresse la parole. En fin de soirée pourtant, lorsque la future duchesse s'approche du buffet pour tromper sa solitude avec un amuse-bouche, le maître d'hôtel insiste pour qu'on serve Mademoiselle de Mortemar. Et soudain, l'assistance se glace. C'est donc elle, Anne de Mortemar, l'arrière-petite-fille de la célèbre veuve Cliquot, celle qui a fait fortune grâce à son champagne. Oui, c'est bien elle. Vous savez, celle dont, quand la fille de la veuve Cliquot avait épousé les Mortemar, avait dit « Ils descendent des croisades et remontent par la cave ». Et comme par enchantement, en quelques secondes, l'atmosphère change. Hmm. Les jeunes hommes se pressent à ses côtés.
Ah bah tiens.
Ils lui font la conversation, ils lui proposent de danser, ils la courtisent. Voilà une leçon qu'Anne n'oubliera jamais. « Ce ne sera jamais pour moi-même que l'on me recherchera », note-t-elle le soir même des fêtes dans son journal intime. Bien sûr, cet épisode cruel ne fera pas encore d'elle le chauffard que l'histoire retiendra. Mais ce soir-là, son destin de future duchesse se profile. Car assise sur la chaise de son ennui, Anne n'a pas les yeux dans sa poche. Déjà parce que sa robe n'a pas de poche, mais aussi parce qu'un garçon retient toute son attention. Le duc de Crussol, futur duc d'Uzès, est beau. Trop beau pour elle, sans doute, puisqu'il ne la remarque même pas. Mais lui, au moins, a l'élégance de la continuité. Il ne change pas d'attitude lorsqu'il apprend qu'Anne est la descendante de la célèbre veuve Cliquot. Vous me direz que l'indifférence ne fait pas pour autant un bon mariage, et vous auriez raison. Mais il est des cas où l'indifférence n'est pas éternelle, Mathieu.
Qu'est-ce qui va se passer?
Tout comme la beauté du duc, d'ailleurs, qu'il va perdre brutalement quelques mois plus tard. Lors d'une partie de chasse, un coup de fusil dérape et notre Apollon reçoit une décharge de plomb au visage.
Aïe.
Il est défiguré. L'atroce situation redonne pourtant de l'espoir à Anne. Il ne me trouvera plus si laide maintenant que personne ne voudra de lui, écrit-elle ravie, toujours dans son journal.
C'est vraiment une belle histoire d'amour que vous nous contez là, Stéphane. C'est vraiment une belle rencontre et ça donne de l'espoir.
C'est la revanche des moches. Cette fois, les astres semblent alignés. Aussi vilains l'un que l'autre, leurs familles respectives peuvent désormais imaginer sereinement des noces. Le 11 mai 1867, Amable Antoine Jacques Emmanuel de Crussol d'Uzès épouse donc Marie-Adrienne Anne Victurnienne Clémentine de Mortemar. 11 années passent, 4 enfants naissent et notre ancien beau finit par décéder d'une crise de saturnisme. Ah, le plomb. La duchesse...
Toujours vérifier les conduites en plomb, Stéphane. Je ne sais pas si vous avez bien fait ça.
Oui, j'ai fait
très
ça.
Très important, faire le diagnostic plomb.
Je vais vous quitter dans un instant pour aller vérifier. La désormais duchesse doit s'affranchir. Anne se retrouve à la tête de l'équipage de chasse à cour de son mari. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un travail à plein temps. Surtout qu'à l'époque, l'activité est réservée aux hommes. Les femmes se contentent de suivre le troupeau à cheval, assises en Amazone. La duchesse d'Uzès, cependant, ne veut plus être reléguée au statut de spectatrice. Anne veut chasser le cerf. Elle organise donc des battues, elle s'occupe des hommes et des chiens, exite les robes longues, notre veuve préfère porter la jupe noire, la cravate blanche, un chapeau melon et une cravache qu'elle tient fermement en main. Et ce caractère de fonceuse va encore s'affirmer grâce à une nouvelle machine dont tout le monde commence à parler, l'automobile. Enfin, automobile, c'est un bien grand mot. Dès 1873, un inventeur français du nom d'Amédée Bollée met effectivement au point l'obéissante. Mais ce premier véhicule routier fonctionne encore à la vapeur et ressemble davantage à une locomotive qu'à une voiture. Il faut attendre le milieu des années 1880 pour que le moteur à explosion change la donne. Est-ce une invention du français Édouard Delamarre de Bouteville ou de l'allemand Karl Benz? Les historiens ne s'accordent pas sur ce point.
Ah, attendez, on va faire venir Castello Lopez.
Ah oui, exactement. Il se fera, j'en suis sûr, un de ces jours un plaisir de départager nos deux hommes. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les premières voitures ne seront commercialisées qu'en 1891, année où Michelin invente le pneu avec chambre à air. Cependant, à la fin du 19e siècle, les véhicules sont encore rares. Est-ce cela qui séduit notre duchesse? Oh, sans doute. D'autant que les récits des privilégiés, les quelques inventeurs qui peuvent s'offrir cette expérience, eux, se multiplient. Tous vivent l'automobilisme comme un sport à sensations. Pas question pour Anne de Mortemart de laisser lui échapper pareille invention. Le 12 mai 1898, la duchesse passe la seconde. Elle achète sa première voiture, une Delahaye type 1. Puis elle se décide à présenter le certificat de capacité pour la conduite des véhicules, l'ancêtre de notre permis de conduire. Problème, aucune femme n'a encore tenté l'expérience.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Des femmes au volant dans Historiquement Vôtre cet après-midi. Stéphane, vous nous racontez le destin de la duchesse d'Uzès qui a désormais une voiture, mais toujours pas le permis pour la conduire.
Oui, la duchesse d'Uzès décide donc de présenter le certificat de capacité pour la conduite des véhicules, l'ancêtre de notre permis de conduire. Imaginez la tête de l'examinateur qui a vu débarquer la duchesse d'Uzès, première femme supposée à présenter l'examen. Car à l'époque, Mathieu, les dames sont considérées comme inaptes. Alors, bien sûr, si elles en ont l'occasion, elles peuvent monter dans l'automobile, hein. Mais pas question de toucher au volant, ni même à la carte routière. Ce qui est mal connaître notre duchesse.
Alors racontez-nous Stéphane, en quoi consistaient les épreuves de ce premier permis de conduire?
Bon, déjà, il faut posséder son propre véhicule.
Il faut arriver au permis de conduire avec son véhicule.
Ben oui.
Moi, en Suisse, pour raconter une anecdote en Suisse quand même, pour vous dire l'époque, il y a un copain à moi qui s'était pointé au permis de conduire en Maserati. Et donc forcément, il n'avait pas eu son permis puisqu'on lui avait dit non, vous ne pouvez pas arriver avec votre véhicule. C'était l'inverse donc à l'époque, Stéphane.
Oui, surtout, mais il faut dire qu'il y en avait très peu à l'époque. On est à la fin du 19e siècle. Donc il faut posséder son propre véhicule, ce qui est sans doute le plus difficile et le plus cher, tant les manœuvres exigées ensuite apparaissent peu sophistiquées. Démarrage, arrêt, redémarrage, Anne réussit brillamment les exercices. Hein. On la déclare donc apte à conduire. Seulement voilà, 2 mois plus tard à peine, la duchesse prend la confiance. Le 3 juillet 1898, Anne d'Uzès de Mortemart devient le premier conducteur verbalisé pour excès de vitesse. Certains racontent qu'elle aurait été prise en flagrant délit dans le bois de Boulogne, roulante à plus de 15 km/h au lieu des 12 km/h réglementaires. Oh, ne riez pas, l'événement défraie la chronique.
C'est-à-dire qu'on allait moins vite en voiture qu'en vélo.
Oui, bah oui, mais à l'époque. Hein. Le tribunal de police de Paris la condamne à plus de 5 francs d'amende, soit l'équivalent de 200 euros. Mais la duchesse n'est pas à 5 francs près, d'autant que se faire pincer pour excès de vitesse devient le nouveau jeu à la mode pour l'aristocratie. Certains journaux comparent ces nouvelles amendes à des brevets de mondanité. C'est bien moins cher qu'une cotisation de cercle. Mmh. Et cela pose tout aussi bien, écrit le rédacteur du quotidien Le Matin, le 7 juillet 1898. Et la duchesse va très vite comprendre qu'en étant un objet de représentation sociale, la voiture peut devenir le lieu d'une première guerre des sexes. L'Automobile Club de France refuse la présence des dames en son sein. Mmh. La duchesse d'Uzès crée l'Automobile Club Féminin de France, dont elle sera la présidente jusqu'à sa mort en 1933. Son but est clair, encourager les femmes à faire comme elle a toujours fait, s'émanciper des clichés.
Europe 1, historiquement vôtre.